Posons donc la question à Gilles Clément, qu'est-ce qu'un jardinier planétaire, mais en la doublant, c'est-à-dire en lui demandant, en te demandant, quel était l'état de ta réflexion sur le jardinier de planétaire avant de venir à Cerisy, et en quoi tout ce que tu as entendu au cours de ces 5-6 jours a instruit, documenté ta réflexion sur ce jardinier planétaire. En d'autres termes, est-ce que tu pourrais composer un bouquet de ce que tu as entendu et qui nous aiderait à dessiner les contours du jardinier planétaire ?
Je ne suis pas du tout le jardinier planétaire, ça ne veut rien dire ça. C'est forcément toute la planète, puisque le principe du jardin planétaire, enfin le constat du jardin planétaire, je répète, pourquoi j'en arrive à ce constat ? Pour trois raisons. La première est l'anthropisation de la planète. C'est-à-dire que la planète est comme un jardin dans lequel le jardinier se trouve partout, même là où il ne va pas, il sait de quoi il est question. C'est le cas sur la planète aujourd'hui, ou même dans les endroits où on ne met pas les pieds, on est au courant parce qu'il y a un drone, un satellite, une info qui arrive. Le deuxième, c'est le brassage planétaire. On pourrait commencer d'ailleurs par ça, puisque le jardin lui-même est le lieu initial du jardin planétaire, dans la mesure où il est une création de quelque chose de protecteur dans le stade de la sédentarisation d'une société humaine, quel que soit le moment de cette sédentarisation dans l'histoire de l'humanité. Et là, au sein de cet enclos, on y met des plantes qu'on est allé chercher à côté, autrefois, où on allait les cueillir là où elles se trouvaient. Et on va comme ça de plus en plus loin. Donc forcément, on amène ici des choses qui viennent d'ailleurs. Donc c'est un mécanisme systématique du brassage planétaire. Et on sait très bien que tout ce qu'on mange vient de partout et très peu de chez nous. On n'aurait pas de pommes de terre et de je ne sais quoi si... Et de tomates et ainsi de suite... Ça vient d'ailleurs. Bon, donc c'est le deuxième. Et le troisième, c'est la définition même du mot « enclos ». Le jardin veut dire « enclos » dans presque toutes les langues à l'origine de ce mot-là. Et « paradis », c'est-à-dire un système idéal, heureux. Ça, c'est plus douteux parce que quelquefois, la planète, c'est pas le paradis, forcément. Mais en tout cas, jardiner, on sait que ça ne rend pas malheureux. Et le jardin a toujours été vu comme quelque chose d'équilibrant. Donc ce sont ces trois raisons-là. Alors, je le constate en voyageant, c'est-à-dire que je vois que tout le monde est partout, et qu'on sait tout, surtout, enfin, on croit. Bien sûr, c'est que ça par contre, c'est une illusion. Mais enfin, en tout cas, on se donne ça donne cette impression. Le brassage est absolument partout, vraiment partout. Les premiers exemples que je vois en voyageant, c'est, je cite toujours parce que c'est assez drôle, c'est la capucine mexicaine dans un Moulinbekia néo-zélandais en Nouvelle-Zélande, à Wellington. Ce sont les lupins de Californie, toujours en Nouvelle-Zélande. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est comme ça, les échiums de chez nous, c'est les hypérines herbacées qui sont en Australie, partout, en même temps qu'on avait apporté les moutons. Enfin, tout est comme ça. Au Chili, on trouve des griffes de sorcières, mais les cousins germains, là, le cristallinum, venant d'Afrique du Sud, et ainsi de suite, quoi. C'est partout, partout, partout. Donc, mécanisme ancien qui a toujours existé, accéléré par l'activité humaine, très sérieusement accéléré. Mais enfin, c'est exactement ce qui se passe dans le jardin, sauf que là, ce sont des échappées du jardin. Enfin, l'enclos, ça oui, là, on est vraiment dans un enclos. Ce qui change et qui est bouleversant avec l'arrivée de la réflexion sur l'écologie, c'est la finitude, le sentiment de la finitude spatiale et la finitude de l'espace du vivant dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que la biosphère, ça va 8000 mètres en dessous du niveau de la mer et 10 000 au-dessus ou quelque chose comme ça. C'est très très peu, c'est une toute petite couche. Donc on est limité. On ne peut pas continuer à vivre de la même façon qu'on vivait avant, quand on pensait que tout était infini, renouvelable, je ne sais pas. Non, ça n'est pas. Donc ça, c'était la... Bon, maintenant, à partir du moment où on a dit, on est dans un jardin, on est sur... la planète est un jardin, forcément, on nomme les habitants du jardin jardiniers. Ils sont tous jardiniers, ils ne le savent pas. C'est juste qu'ils ne le savent pas. Donc, qu'est-ce que c'est que le jardinier planétaire aujourd'hui ? C'est celui qui a pris la conscience qu'il est un jardinier. Ça n'est juste, c'est juste ça. C'est tout. Qu'il est un jardinier, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité d'intervenir. Il a une action, ça, on ne peut que le constater. Mais c'est pas forcément une action qui est contrôlée, qui est comprise et qui est orientée. C'est une action qui est complètement irréfléchie la plupart du temps et qui est destructrice dans beaucoup de cas. Pas toujours, bien sûr. Et peut-on faire autrement? Peut-on jardiner correctement pour qu'on puisse continuer à vivre? C'est juste cette question-là. Or, ça n'a pas été développé. Tu le dis justement, ça n'a jamais, je n'ai jamais pris le temps de le faire et j'ai besoin de vous. Je peux pas le faire tout seul. C'est vous, parce que nous sommes tous jardiniers. Mais en plus, vous avez des capacités à aborder des champs que je n'aborde pas forcément. Vous êtes jeune, donc c'est possible d'avancer dans cette direction. Et donc je passe la main sans la passer parce que on est tous concernés. Mais je veux dire par là que je ne pourrais pas seul définir le rôle du jardinier. C'est un livre, on doit y en avoir un jour, collectif. C'est absolument pas imaginable que ce soit remis entre mes mains, vous comprenez. Mais je peux donner des directives, si vous voulez, des directions plutôt. Ce sont des éventuelles têtes de chapitre, s'il y en avait. Le premier serait savoir où on est. Vous voyez que dans la situation dans laquelle on se trouve, on nous donne beaucoup de moyens pour agir dans le sens d'un déplacement physique, d'une consommation de toutes sortes de produits, etc. Mais si on prend aujourd'hui quelqu'un du ministère de l'Environnement, je me répète un peu, mais enfin, et qu'on le met dans l'environnement, il meurt en 3 jours. Parce qu'il ne sait pas se nourrir, parce qu'il ne sait pas nommer, parce qu'il ne sait pas où il est. On ne sait pas. Les gens qui ont des responsabilités importantes aujourd'hui et qui nous dirigent ne savent pas où on est. Et il n'y a pas que, pas que les responsables. Il y a presque tout le monde. On ne sait pas où on est. Donc c'est très dangereux de pas savoir où on est. On peut mettre un pied dans un trou et disparaître, quoi. On peut manger la plante qu'il ne faut pas manger. Enfin, ainsi de suite. Mais pourquoi on nous dit pas ça? Pourquoi on n'apprend pas ça? Il y a des moyens d'apprendre ça. Et il y a quelques personnes qui sont capables de donner cet enseignement. Et malheureusement, très peu, puisque les postes qui sont ceux de ce qu'on appelait les sciences naturelles, c'est-à-dire apprendre justement là où on est, ces professeurs, ces postes ont disparu presque tous. Hein. On vous dit surtout, vous n'avez pas à savoir où vous êtes, on vous donne la chose à consommer, c'est pas la peine d'apprendre comment elle est faite, si vous pourriez par hasard la faire. C'est un combat contre la gratuité en permanence. Donc on comprend tout de suite à travers cette élimination de l'accès au savoir qu'on cherche à vous vendre quelque chose et non pas à vous permettre d'accéder gratuitement à cette chose. Vous voyez la différence? C'est considérable. On vous interdit l'usage des mains puisque vous n'avez plus que des machines. Mais enfin, où va-t-on là? On va à la robotisation de l'individu consommateur et c'est tout. Et c'est tout au nom de ce modèle économique qui nous dirige. C'est insupportable quand on réalise ça. Et on dit, moi, non, pas du tout. Moi, je veux redevenir jardinier, quoi. C'est tout. Enfin, je veux mettre les mains dans la terre ou dans le carburateur. Je vous conseille l'éloge du carburateur de je sais plus son nom, Crawford, oui, voilà, qui dit des choses très, très justes, là. Et c'est récent aussi, ça. Donc, c'est une réaction à cette pression insupportable. Or, là, ça concerne les motos et... Et c'est pas le... Mais c'est une forme de jardinage. Donc c'est savoir où on est. Ça c'est la première chose qui déboucherait selon moi sur dans le cadre d'un gouvernement idéal sur le ministère de la connaissance. Alors ça ce serait c'est simplement parce que ça permet le ministère de la connaissance. Je le place le plus haut dans toute l'échelle des ministères. Et c'est celui qui donc permet l'accès au savoir. Après, quand on a compris à peu près où on est, on peut agir comme on l'entend. Là, c'est la liberté. Hein. On peut dire, oui, je sais que je vais faire une bêtise, ben je la fais. Mais on sait qu'on la fait. C'est pas du tout la même chose que de faire une bêtise sans le savoir. C'est qu'on ne peut pas accuser aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas eu accès au savoir de détruire quelque chose de vital. Ici, il sait pas. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en prison ou punir un enfant qui fait une bêtise alors qu'il ne sait pas du tout ce qu'il fait? C'est pas forcément une bêtise, vous voyez. Et là, la population aujourd'hui fait énormément, énormément de bêtises à un niveau considérable, on lui dit pas. Quand on lui dit, c'est juste sur un ton alarmiste, sans l'enseigner exactement de quoi il s'agit. Donc il y a un problème là énorme. Ça veut dire que, de mon point de vue, le ministère de la Connaissance, il est placé au-dessus de tous les autres ministères, tous. Après, il y a les plus importants de la vie, qui sont quand même secondaires. C'est l'habitat, la santé, certaines choses comme peut-être les transports, des choses comme ça. Et tout en bas, là, en bas, le ministère des Finances, qui est très important puisqu'il permet de faire fonctionner les autres, mais c'est pas du tout celui qui donne ses ordres. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est d'ailleurs même plus le ministère, ce sont les lobbies, vous le savez bien, mais enfin, c'est la finance, disons. Donc, on inverse complètement les choses dans ce modèle idéal, forcément utopique. Le deuxième point, c'est que j'ai évoqué déjà, c'est dans le savoir où on est, c'est le recours à l'usage des mains. Et c'est pour ça que je trouve que dans l'exposé de Miguel, il y avait dans cette photo, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la photo qui montre les mains, elle montre aussi le cerveau. On ne peut pas les séparer dans l'être humain. C'est incroyablement lié et c'est très très important. Donc s'il faisait lui un jour un livre, j'insisterais, enfin je lui ai dit, je crois que j'espère qu'il a compris. Le troisième, c'est à travers cette manière de voir les choses, l'initiation d'un projet d'économie de la non-dépense, c'est-à-dire d'une économie qui rejoint le mot économie au sens initial, on ne dépense pas. On ne dépense pas pour dépenser, on gère, on ne dépense pas. L'économie de la non-dépense est paysanne à l'origine. Et là, c'est pas du tout, on a parlé ce matin... petit déjeuner de la nostalgie, c'est pas du tout nostalgique. C'est juste du bon sens. On ne dépense pas ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'on ne s'endette pas. Aujourd'hui, l'emprisonnement des êtres se fait par l'endettement. La tragédie des exploitants agricoles dans le conventionnel, c'est par l'endettement qu'elle se passe. Les suicides, il y en a 500 par an, je pensais qu'il n'y en avait que 400, il y en a 500. Dans ce monde-là, c'est à cause de ça. Ils n'ont aucune issue, ils n'ont pas de sortie. C'est une horreur totale. Ben non, on s'endette pas. Pourquoi faire? Pourquoi s'endetter? À quoi ça sert? Pour faire quelque chose qui est orienté par quelqu'un d'autre. Mais on vous sort le cerveau, on vous le prend, on vous empêche de penser. Et eux, on les empêche de prendre de leurs initiatives. Ils n'ont pas le droit. Pour avoir accès aux primes, il faut qu'ils fassent ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autonomie de pensée. Mais c'est une horreur. On comprend qu'ils se suicident. Et ils rembourseront jamais leur emprunt. Donc, l'économie de la non-dépense va dans un sens de l'autonomie de l'action et de l'esprit. On décide ce qu'on fait en fonction de ce que l'on peut faire. Et ça n'empêche pas d'avoir des rêves et des utopies. Donc l'économie de la non-dépense qui induit l'échange, le recyclage et le partage, ça c'est des choses qui évidemment sont banales et ont déjà été dites, c'est du rabâchage, mais en même temps c'est intéressant d'y réfléchir plus sérieusement. Donc ça c'est savoir où on est. Le deuxième point, ce serait la démondialisation. Aujourd'hui, la mondialisation s'oppose d'une manière absolument frontale au jardin planétaire. Le jardin planétaire est une vision globale. C'est la perception de la planète comme un jardin. Mais jamais dans un jardin, on a la répétition infinie du modèle. Tout est différent. Une herbe côtoie une autre herbe. Une plante, un animal différent. À chaque fois, tout le temps est différent. Tout est différent. Ça fleurit pas au même moment. Mais sur la mondialisation, le produit commercialisé arrive sous le même emballage, au même moment, au même endroit. Peut-être pas encore au même prix parce qu'on n'en est pas tout à fait là, mais c'est le but. Mais c'est une horreur. C'est l'arasement culturel. L'arasement et la suppression de la diversité. C'est ça, la mondialisation. La suppression de la diversité au sens du produit, de l'être vivant, de tout ce que vous voudrez, au sens de la culture. Il n'y a plus qu'une seule culture. Il est très dangereux de ne parler qu'une seule langue aujourd'hui. Pour moi, très dangereux. Je refuse de faire une conférence en anglais en Italie. Je ne comprends pas pourquoi on me demande ça. Je parle anglais dans les pays anglophones. Je fais cet effort. Je ne veux pas le parler en Espagne ou en Italie. Je ne le veux pas. Je le ferai en espagnol, en Italie, parce que je parle pas bien l'italien. Il n'y a qu'avec peut-être les japonais où je suis obligé d'avoir recours à une langue qui est utile pour ça. Ça, je suis d'accord là-dessus. C'est pas mal d'avoir un espéranto. Et pourquoi est-ce que dans une université en France, on nous dit vous devez penser, parce qu'une langue, ça n'est pas seulement un langage, c'est une façon de penser, c'est une culture, mais c'est une horreur de faire ça. Ça, c'est l'arasement culturel. C'est exactement la même chose que l'arasement de production des êtres, des produits, des choses que l'on consomme. Donc je m'oppose à ça, c'est-à-dire, j'appelle ça la démondialisation, c'est-à-dire qu'il faut apprendre plusieurs langues, le plus possible, pour pouvoir aller dans la richesse culturelle, la plus forte. Quand en indonésien j'apprends que le mot paysage n'existe pas, ça m'intéresse. Je dis mais pourquoi ça n'existe pas? Et parce que la vision culturelle sur le paysage, elle n'est pas du tout la même que la nôtre, bien entendu. Et c'est comme ça dans toutes les cultures. Donc c'est terriblement dangereux de se priver de cette richesse-là. Alors ça devient compliqué quand on va à Vanuatu parce qu'il y a 30 langues là sur l'archipel. Donc là, je comprends très bien que dans ce discours, il y a des limites. On n'a pas le temps dans le courant de sa vie d'apprendre toutes les langues qui sont encore en vigueur sur la planète et que c'est bien d'avoir des passerelles et un moyen pour communiquer. C'était le français à une certaine époque, c'est l'anglais aujourd'hui, c'est pas mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ça. Vous voyez ? Donc ça, c'est juste pour faire comprendre ce que je voudrais dire pour moi la démondialisation. Donc, la démondialisation va avec une production locale et une distribution locale qui rentre aujourd'hui dans les processus économiques écologiques, parce qu'on calcule le coût écologique de chaque chose, et ça va bien évidemment avec. Mais ça va dans le maintien et le renforcement même de la diversité du vivant, dans le sens où une variété ici peut vivre à Cerisy, il aura beaucoup de mal à vivre à Perpignan ou à Bangkok, quoi. C'est sûr. Or, la mondialisation vous dit non, il n'y a qu'une espèce de carotte, une variété, on vous la vend, dans un sol qui n'est plus un sol, qui est un substrat, et on met l'engrais, et on vous vend l'engrais avec, enfin, c'est pas l'engrais d'ailleurs, et vous faites tout la même chose partout. Donc ça, c'est la perte de la diversité que l'on exploite, mais ça va avec la perte de la diversité que l'on n'exploite pas aussi. Ensuite, il y a démurer. Alors, démondialiser, c'est une vision globale. Démurer, c'est enlever les frontières. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des murs partout, hein, et des frontières partout, on irait dans la libre circulation des êtres et non pas dans la libre circulation de l'argent. Ça n'a rien à voir. On a le droit d'aller voir son voisin et de lui faire une bise si on a envie, ou pas forcément d'aller le tuer, mais on a le droit de parler avec lui. Et justement, on a même intérêt à voir comment on peut communiquer en apprenant certains mots. Voilà. Là, en ce moment, je sais que le lièvre, c'est « iepure » en roumain. Alors, j'apprends des mots en roumain. « Capucha », c'est la tique. Ah oui, ça c'est terrible. J'apprends ça parce que je fais travailler un roumain. Mais c'est très beau parce que on dit capuche, alors ça fait une capuche, vous savez quoi. Et je trouve qu'il y a une poésie dans l'accès au langage qui, bon, c'est anecdotique ce que je vous raconte là. Mais enfin bon, démurer est pour moi très important. On a réussi à faire quelque chose un peu avec l'Europe, mais enfin on reconstruit des murs partout dans le monde. C'est catastrophique. Et j'en ai vu des murs, puisque j'ai vu celui qui a été commencé, je crois que c'était sous Reagan, au niveau de Tijuana, voilà. Et il y en a eu, il est doublé. Ça fait un no man's land entre les deux, qui est un intéressant tiers-paysage par ailleurs. C'est souvent comme ça sur la planète. On a des lieux d'abandon qui sont des lieux de tiers-paysage, finalement, d'accueil à une diversité qui n'a le droit d'être ni d'un côté du mur ni de l'autre, mais entre deux murs et protégée. C'est comme ça entre la Corée du Nord et du Sud, c'est tragique, hein. Et là, ça veut dire ce qu'on a évoqué dans ce colloque, qu'on prend des dispositions, ça ressemble à, ça évoque la question de la disposition qu'on prend pour protéger. et que de l'autre côté du mur, bah justement, on peut faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas du tout ça, le jardin planétaire, puisque tout est lié. Donc, c'est une illusion de faire ça. Donc, voilà. Et puis, les exemples actuels, c'est-à-dire, pourrait-on s'appuyer sur des... Alors, j'en ai très, très peu, et je ne sais pas où ça se passe, sérieusement. L'expérience de Curitiba a été citée. Comme je vous l'ai dit, j'étais allé avec Yvette Yagi et Laurette Cohen à Curitiba pour étudier la question. On a eu le retour de l'évolution de cette régie urbaine sous la directive d'un jardinier planétaire, pour le coup. Il ne s'est pas planté un chou, peut-être Jaime Lerner, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, il a organisé et fait développer sa ville d'une façon telle que, pour moi, c'est un jardinier planétaire. Et donc, je ne peux pas ne pas citer ça comme exemple, même si ça a ses limites. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit. Il a dit que au-delà de 2,5 millions ou je ne sais combien d'habitants, le système mis en place avait... il fallait le faire fonctionner comme ça, mais qu'il fallait mieux recréer une ville ailleurs plutôt que de dire on va l'étendre. C'est qu'il y a aussi un problème comme ça d'extension spatiale, le fait de manger le territoire, mais en même temps de démographie qui est un sujet tabou. Là, on n'en parle pas. Dans la perspective du jardinage planétaire, il y a forcément l'accès à une régulation démographique, pas comme le font systématiquement les animaux non humains, parce que c'est quelquefois juste tragique et désolant, mais quelque chose qui parle savoir, tout le ministère de la Connaissance, là, ça joue un rôle, permettrait d'arriver à quelque chose qui est temporisé, quoi. On peut pas continuer dans un espace fini à se développer infiniment. Ça n'a pas de sens. Ça n'est pas possible. C'est juste pas possible. Il se peut qu'il y ait une autorégulation, mais tragique, par des maladies, par des épidémies, mais enfin, ça pourrait être autrement. Et quand Mao Tse-tung dit « vous n'avez droit qu'à un enfant », c'est horrible. Ils savent pas pourquoi. Et bon, ils savent qu'ils sont beaucoup, mais on leur a pas tout expliqué. On leur enlève ce qui, pour eux, les rassure dans la fin de leur jour, puisqu'ils s'appuient sur une descendance. C'est terrible, quoi. Mais peut-être que autrement, on peut prendre ces décisions soi-même sans qu'on nous le donne comme un ordre insupportable à exécuter. Il y a l'exemple de la au-delà de Curitiba de El Hierro, qui est d'une petite île des Canaries. Elle est minuscule, c'est d'accord, mais ils sont en autonomie énergétique. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à partir d'éoliennes, à partir de solaire. Et quand il y a vraiment une... Alors, c'est à quasi 100%. Et quand il y a vraiment une défaillance, ils ont gardé quand même une centrale énergétique. Je ne sais plus à partir de quoi, si c'est du charbon, du pétrole ou autre chose. Mais ils arrivent pratiquement à cette situation-là d'autonomie, justement. Parce qu'il y a sur l'île, évidemment, rien du tout qui leur amènerait une autre énergie que le vent et le soleil. Et du vent et du soleil, il y en a beaucoup partout. Donc, je sais que du point de vue du paysage, les éoliennes posent des problèmes. Et souvent, elles sont mal implantées. D'ailleurs, souvent, on dit que leur énergie n'est même pas exploitée, que c'est une espèce de mafia qui vend la machine et qui parvient à l'imposer. Mais que quelquefois, c'est même pas relié au réseau. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Enfin, une espèce d'arnaque. Mais il y a aussi le fait qu'on ne fait pas très attention à l'emplacement, où il n'y a pas d'études sérieuses d'un point de vue de l'impact paysager. En même temps, on peut s'habituer aux éoliennes. Hein. Je ne sais pas, c'est nouveau pour nous. Je voulais quand même citer El Hierro pour l'autonomie énergétique, qui va dans le principe de démondialisation, c'est-à-dire celui qui permet localement de fournir son énergie sans la relier par un réseau à une puissance centralisée, ce qui est monstrueusement dangereux. Ça veut dire, je reviens aux paysans, c'est un proverbe qu'on devrait avoir dans la tête en permanence, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, mais jamais. On coupe un fil ici, vous avez 2 millions d'habitants dans une centrale, quelque part, ça s'est passé il n'y a pas encore très longtemps, un machin qui s'est cassé du côté de je ne sais pas où en Allemagne, et puis de toute la France ou presque était dans le noir, ou dans le noir c'est pas très grave, mais plein de choses terribles qui arrivent puisqu'on est conditionné par l'électricité aujourd'hui. Mais enfin, comment est-ce qu'on accepte ça? Oui, c'est terrible ça. Donc c'est plutôt la multiplication, c'est comme la diversité, hein, des systèmes de production diversifiée énergétique et localisée et non reliée, surtout non reliée. Parce que couper un fil et faire, mettre tout le monde dans mais c'est criminel, quoi. Bon, donc El Hierro me semble être un bon sujet. Ce n'est pas un sujet de paysage que je voulais évoquer, effectivement, c'était un sujet de l'énergie.
Non, mais en fait, je te donne raison, parce que ça caractérise notre jardinier planétaire. Le jardinier planétaire peut être aussi un révolté.
Mais ben, si on regarde les choses, on a du mal à pas se révolter, quoi. Moi, je suis pas un révolté de nature du tout. Moi, j'étais très pacifique. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'on nous racontait des coups foireux, là. C'était pas possible, quoi. Voilà. Ça a commencé tôt, faut dire. Hein. Bon. Et puis le troisième exemple que j'ai vient du film d'hier sur Cuba, quand on dit tant de mal parce que c'est une espèce de oui, c'est dur d'aller en prison sous prétexte qu'on a fait un poème qui va pas à Monsieur Castro. C'est vrai que c'est désagréable. En même temps, Cuba est par force une expérimentation inouïe de l'accès à l'autonomie intelligente, dont tout le monde a question aujourd'hui, a conscience aujourd'hui à Cuba. Et quand on voit qu'on a plus que 70% d'autonomie alimentaire dans cette île, vous vous rendez compte, c'est extrêmement rare hein, dans le monde. Cette chose-là, c'est quasi unique. Je ne sais même pas si c'est pas plus que ça. Et tout en bio, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux produits. Mais quelle chance que dans le même temps, ces gens-là, quelles que soient leurs difficultés, leur malheur qui vient de ne pas pouvoir voyager, de ne pas rentrer en contact avec les autres, etc., ils sont dans une situation inouïe d'accès à la connaissance. Vous allez voir un Cubain qui va vous raconter tout à coup, je ne sais pas quoi, sur Balzac, mais nous on est incapable de dire Cervantes a dit ça. On ne sait pas quoi. Et puis tout est dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau culturel extraordinaire. Ils savent aussi cultiver avec leurs mains. Je sais pas, enfin c'est un peuple admirable et il est en danger. Récupéré par les États-Unis, il est en danger. Obligatoirement. Excusez-moi de le dire, mais c'est peut-être désagréable à entendre, mais il est en danger, voilà. Je suis pas communiste pour autant, hein, c'est pas la question. C'est vraiment pas la question. Donc voilà, alors ça ce seraient les pistes pour le livre que vous allez écrire qui va s'appeler Le jardinier planétaire.
Merci pour ces six points et ces différents exemples. Alors, très bien. Arrêt sur image, parce que donc six points et puis trois exemples qui me semblent dessiner en creux le jardinier planétaire. Est-ce que je me trompe si je dis que j'en conclue déjà, provisoirement, le fait que le jardinier planétaire, on peut l'être pratiquement, on pourrait même l'être même professionnellement en mobilisant des facultés, des savoir-faire, mais on pourrait l'être aussi, si j'ose dire, métaphoriquement. C'est-à-dire que on pourrait être un journaliste planétaire, journaliste ou comment ingénieur, voire même, je pourrais me justifier sur le pourquoi de ce parallèle plus tard si on a le temps, start-upper et jardinier planétaire, etc. Après tout, on parle des start-upper comme de jeunes pousses, etc. Bon. Donc, ce que je retiens à ce stade, il y aurait d'autres points sur lesquels qu'on pourrait reprendre, mais ça, on le reprendra dans la discussion. Personnellement, j'ai été très sensible à cette économie de la non-dépense qui me fait penser, qui doit faire aussi penser à Edith, à l'abondance frugale de Jean-Baptiste de Foucault, notre président devant lequel on s'incline, etc. Le parallèle est intéressant. Alors, quant à la démuration, on pourrait dire, ou le démurement.
Je ne sais pas, c'est un
faux. Oui, ça. En même temps, moi, j'aime bien les murs, parce que les murs peuvent être végétalisés. On en a de beaux ici, alors jusqu'où on pousse, etc. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas sur ces différents points que j'aimerais revenir. On pourrait le faire à travers la discussion. À ce stade, mais peut-être que c'est ton intention, j'aimerais revenir sur des moments du colloque qui nous aide à penser, à caractériser. Et il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, c'est la rencontre avec le jardinier de Tatiou, On peut tous se considérer plus ou moins jardinier planétaire, mais il nous a semblé qu'il était, lui, jardinier planétaire, puisque d'emblée, il nous a dit, le réchauffement climatique, c'est quelque chose que j'affronte depuis 10 ans, etc. Donc, il a conscience de ces problèmes-là, et il les vit et l'essaye à son échelle. Sauf qu'on a vu aussi la situation difficile dans laquelle il se trouvait, faute de soutien des collectivités ou d'autres acteurs. D'où une interrogation que je pose, mais à laquelle tu pourras répondre en cheminant, c'est est-ce qu'on peut être jardinier planétaire tout seul ? Peut-être sans doute avec d'autres jardiniers, mais est-ce qu'on peut l'être sans l'aide d'institutions ? Et quelles seraient ces institutions ? Alors, tu évoques un ministère, mais quelles pourraient être d'autres institutions susceptibles d'être des alliés de ces jardiniers planétaires ? Voilà à ce stade les interrogations que j'ai, mais peut-être souhaites-tu y répondre en partageant avec nous des éléments que tu as glanés au fil du colloque et qui t'a aidé toi-même à caractériser ce jardinier planétaire.
Oui. Alors, on peut commencer par Tadiou.
Ah.
Oui, oui. Bon, lui, il avait besoin d'un peu de Lexomil. Hein. C'est sûr qu'il souffrait. Et il souffrait... Mais parce qu'il y a une inadéquation entre le territoire dont il s'occupe et ses préoccupations, ses exigences, son goût. Il était malheureux, il n'arrêtait pas de fumer sur cigarette, ça ne va pas du tout, quoi. Un jardinier ne fait pas ça d'habitude. Hein. Il n'était pas complètement représentatif du jardinier heureux. Équilibré par le jardin. Et ça vient du retard énorme, extrême de l'institution, qui n'a rien compris, qui lui fait faire des choses qu'on peut pas faire seul, où il faut alors diminuer la surface. Ce serait pas grave du tout. Ça en ferait plus pour les goélands, les renards et les lièvres, puisqu'il a tout ça chez lui. Et c'est pas mal. Mais là, on lui donne à faire un travail de dingue, quoi. C'est impossible. Ils sont deux, mais ça suffit pas. Et puis alors, ils font venir une entreprise, ça c'est l'externalisation, ça s'appelle, qui est carrément dramatique, parce que c'est tout sauf du... Enfin, pas dramatique, là-bas, je crois pas qu'ils fassent du gros dégâts, mais c'est pas du tout du jardinage. C'est un machin qui est du nettoyage, puis c'est tout. Alors que on pourrait dire, ben, on abandonne toute une partie, et puis on... Mais ils sont que deux. Si on peut pas payer, à quoi ça sert d'asservir ces gens en exigeant la maintenance du propre? Enfin, c'est ridicule, quoi. Donc, il y a quelque chose de la part de l'institution qui va pas. Ils ont pas compris ce que signifie le jardin au sens propre, quoi. C'est plus une image pour le tourisme, un truc comme ça, quoi. Mais c'est pas ça du tout. Donc lui, il est en décalage par rapport à ça, et ça explique l'état dans lequel il est, je crois. C'est pas le jardinier planétaire n'a pas du tout vocation à devenir quelqu'un qui fume cigarette sur cigarette en expliquant à quel point il est malheureux parce que tout va mal. C'est pas vrai. Ça, je crois pas. Donc les autres points. Oui, peut-on être les mains dans la terre ou... Ben, je sais pas. La cuisine qu'on mange ici, par exemple, fait partie des choses qui sont une espèce de lien entre le sol, la production, l'art de la cuisine, cuisiner, et une consommation qui, à ce moment-là, devient intelligente ou pas. On peut regarder les choses comme ça. On est dans le faire, mais on est dans le savoir. C'est une des rares choses qui reste dans le monde, d'ailleurs, qui n'a pas été combattue. Il y a encore une diversité d'offres sur l'art de cuisiner, en Italie particulièrement, mais au Japon, il y a des pays qui ont maintenu ça, quelle que soit la pression. Hein, et ça, c'est fort. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Donc, il n'y a pas d'échelle pour moi. Ça peut être, comme tu disais, métaphorique ou je sais quoi, mais ça ne peut pas être totalement abstrait, parce qu'on est tous les jours, puisqu'on respire, on boit, on mange, etc., tous les jours en prise avec des choses concrètes. Donc tout le monde a ce rôle, cette fonction. Il y a, j'ai mis 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rubriques. La dynamique du vivant, Véronique Mur avec quelque chose qui apparaît comme les plantes civilisatrices. Je trouve que c'est une espèce d'interaction vivant-vivant qui ça renvoie aussi à l'ethnobotanique, mais à la cuisine en même temps, à la phytothérapie, à la thérapie tout court. Le premier jardin médicinal, le jardin des plantes était un jardin médicinal avant, à Paris, c'était énorme, hein, avant d'être ce que l'on sait aujourd'hui. Le monde des coupables. Et qui, quand Tassin fait allusion aux invasives en surplus du vivant, qui est une vision incroyable auquel j'avais pas pensé du tout, c'est tellement absurde. Il fait apparaître l'absurdité de cette pensée. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ben, non, les invasives en surplus du vivant, non. Les invasives, d'ailleurs, c'est un mot que j'utilise pas. Moi, c'est les plantes envahissantes. Non, elles font partie du vivant et c'est tout. Il est d'accord avec moi, hein. Mais je trouve que cette formulation était très intéressante. La prise de terrain, et là, il y a des exemples qui ont été donnés par Miguel. Alors, c'est une évolution intéressante parce que ça n'existait pas du tout. Hein. Moi, quand j'étais étudiant, ou même dans tout jusqu'à il y a quelques années, on n'abordait absolument pas ces questions qui sont des questions de... On va à l'assaut du sol. C'est une chose qu'on faisait pas. Hein. On n'en avait pas l'idée, on n'imaginait pas que c'était possible, d'ailleurs. On n'en aurait même pas eu le droit. Enfin, on pensait qu'on n'avait pas le droit, quoi. C'est très intéressant, parce que c'est un bouleversement. Les prises de terrain se font de plus en plus. Ça met en discussion dans notre métier la question de la conception. Mais s'il faut le faire, on le fait. On a vu ça avec aussi Mathieu Gontier. On a vu ça, évidemment, d'une façon plus évidente avec Frédéric Picard sur la prise de terrain par la société à Dijon. Là, c'est l'exemple de Dijon est très fort là-dessus parce que, évidemment, ça me paraissait être un extraordinaire résumé de la situation sur la planète aujourd'hui, où on est en tension, mais en dialogue, où on est en nécessité d'une production locale et distribution locale, où on est dans une autre économie, où on est dans l'entraide, où on est dans le partage, où on est dans la discussion. Enfin, c'est un mélange incroyable. On peut être aussi dans les débats et les affrontements. Mais en même temps, il y a là quelque chose de très beau qui se réalise, et ceci, quelle que soit l'institution. Donc, on tire un trait sur l'institution d'une façon totale. Ça lui est très désagréable, et c'est pour ça qu'elle met les bâtons dans les roues. Mais il n'empêche que ça marche. Je ne dis pas qu'on pourrait aller à d'énormes échelles là, parce que on rentre à ce moment-là dans un processus qui est celui d'une anarchie concertée. Mais il y a un seuil. Quelquefois, on m'a fait cette réflexion du rapport à l'anarchie. Moi, j'ai lu le manifeste des anarchistes. J'ai trouvé que c'était très très bien. Il y a longtemps, hein, c'était très vieux cette histoire, mais c'est juste bien pour un individu. C'est que ça s'arrête à la question de l'individu. Dès qu'on rentre dans le groupe, et ça peut-être encore fonctionner jusqu'à un certain... Puis il y a un seuil où ça marche plus du tout. Alors il y avait en tout cas cette dimension des relations humaines très fortement là, aussi avec ce que Romain nous montrait dans le droit à l'erreur, par exemple. Je trouve très très important. Très important, c'est vraiment, on a vraiment le droit à l'erreur parce que ça veut dire qu'on accepte de passer par l'expérimentation et non par la reconduction d'un modèle tout fait qui est parfait. Rien n'est parfait dans le modèle, dans le système évolutif du vivant. Donc de toute façon, il faut expérimenter. Eh ben, on a le droit à l'erreur. Bon, la prise de conscience, j'aurais pu commencer par ça. Là, il y a des François Le Tourneux nous fait prendre une conscience un peu particulière sur l'évolution des paysages. Je dirais qu'il y a aussi un côté un peu nostalgique, hein, dans le fait de revenir en arrière, mais c'est aussi apprécier la dynamique et voir quelque chose que l'on ne voyait pas ou le montrer. Et ce qu'il avait fait comme remarque, ne voir du paysage que ce que nous voulons, m'avait paru très intéressant parce que ça nous amène à... Enfin, à quelque chose d'autre, mais... Dans le métier qui était la fonction qui était celle d'enseignant, je voyais bien que il y avait autant de restitution d'une lecture de paysage qu'il y avait d'étudiants et que ça pouvait venir de ça. Là, je me suis dit, tiens, est-ce que ça venait de ça, de ce que dit François Le Tourneux là, ne voir de paysage que ce que nous voulons ou simplement ce que nous ressentons et tout le monde ressent différemment. ça peut être un mélange des deux. Hein. Donc il y a une action culturelle dans la lecture du paysage, forcément, qui est très forte. Et la prise de conscience, de toute façon, le film de Nils Aguilar, hier, montrait beaucoup ça. Parce que c'était autre chose, hein, c'était sur à la fois la prise de conscience et l'action, en Angleterre, ou à Cuba, ou ailleurs. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pris le film en route, hein, mais c'était très bien. Alors, ensuite, il y a des questions liées à l'évolution qui ont été évoquées. Laurette Cohen parle des glissements progressifs. Carlos Avila parle Ben oui, mais c'est toi. Moi, j'ai l'impression dans ce colloque, si vous voulez, que je suis pas moi. Parce que vous m'obligez à me regarder comme si j'étais quelqu'un d'autre. Il dit, ah bon, tu fais quoi celui-là? Et la métamorphose avec Carlos Avila, où je suis à la fois la chenille et le papillon, ça, je m'y attendais pas du tout. Hein. Mais il y a un processus de transformation et d'évolution, peut-être aussi, je ne sais pas. Ben, on arrive dans un lieu, soit on a une carapace, un home métallique, et un 4x4 blindé qu'on traverse, on met le GPS, donc on nous dit où il faut aller, quoi. Tourner à droite, tourner à droite, tourner à droite, à gauche, tu vois, de toute façon on va nulle part. Soit on regarde vraiment, soit on vit vraiment, on respire et on prend l'humidité d'ici, il y en a. Forcément, que si on y habite, au bout d'un moment, on se transforme. Mais c'est obligé, quoi. On se transforme, on change de zone climatique et on va prendre des coups de soleil, puis au bout d'un moment, on n'en prendra plus. Si on va, vous voyez, parce que ce que dit Francis Allais sur, c'était dans un de ses premiers livres sur la condition tropicale, c'est que si on reste longtemps sous les tropiques, la glande pinéale, elle reçoit, on a un truc là, dans la crâne, une durée d'ensoleillement, enfin d'éclairage et de rayonnement qui est à peu près toujours la même, parce que les jours sont à peu près toujours de la même longueur, et que finalement les gestes que l'on peut faire sont répétables n'importe quel moment. Ben, on se marie, on a des enfants, n'importe quel jour, n'importe quel moment, et les enfants naissent. On fait des fêtes quand on veut, quand on peut, etc. Alors que dans d'autres zones climatiques, c'était très intéressant, son interprétation. C'est scandé, c'est rythmé. Il y a plus de révolutions au printemps, il y a plus de dans les pays du Nord, dans les pays tempérés ou dans les pays qui sont saisonniers, que dans ceux où il y a des révoltes tout le temps, mais il n'y a pas de révolution parce que il n'y a pas de regroupement des révolutions par l'influence du lieu. Donc oui, je pense qu'on est conditionné par ça et qu'on peut pas se comporter de la même façon en fonction des endroits. Il y a absolument pas de doute là-dessus. Et si on se comporte toujours de la même façon, c'est qu'on est robotisé, c'est foutu. Faut se dérobotiser, se démondialiser, se démurer. Il y avait dans le travail de la pédagogie sur le grand paysage là, une prise de conscience par Alexis Pernet qui rejoint, mais tout à fait d'une autre façon, celle de les analyses, à mon avis, comparatif de Le Tourneux, puis il y avait les outils. Les outils avec Eugénie qui dit pourquoi la photo, Patrick Moquet qui dit pourquoi le dessin, Françoise qui dit pourquoi la voix ou comment la voix. Ce sont des choses auxquelles des questions que je ne m'étais jamais posées, mais auxquelles il y a eu déjà des réponses, donc mais qui sont intéressantes. Voilà, c'est des particularités que j'ai relevées, mais il y en a beaucoup d'autres parce que j'ai pris plein de notes, mon cahier est plein.